FM, soyez les bienvenus. Il est midi et le journal nous est présenté par Camille Parsi. Bonjour.
Bonjour Arthur et bonjour à tous. On débute avec une maladie dont on parle peu mais qui concerne bien plus de monde qu'on ne l'imagine. Son nom, le syndrome de Diogène, un trouble du comportement caractérisé par une accumulation compulsive d'objets, de déchets, une négligence de l'hygiène ou encore par l'isolement social. Le problème, peu de solutions existent aujourd'hui en Corse pour aider les malades. Face à ce constat, un jeune couple vient de créer une entreprise de nettoyage extrême en région bastiaise. Vous les avez rencontrés sur l'un de leurs premiers chantiers, Clémence Gourdon-Négrini.
En sueur, Toussaint Sorbe nous accueille dans un petit salon cuisine.
Une accumulation de saleté, de crasse, d'effets personnels, de déchets.
Comme bien souvent, l'homme chez qui il se trouve a déclenché son trouble après un choc, en l'occurrence double, émotionnel et physique.
On prend plus soin de la maison, on fait plus attention à rien, on nettoie plus rien, on jette plus rien. Et c'est dramatique pour ces personnes qui ont besoin d'aide et qui n'en trouvent pas.
Ce qui est C'était justement le cas dans cet appartement où deux entreprises avaient déjà été sollicitées. Alors quand son locataire a vu les premiers résultats dans sa salle de bain.
Merveilleux. Et je pense que le reste va être très bien aussi. Ah, je vais revivre.
Puis dit qu'il n'en dira pas beaucoup plus, mais Julie Sorbe espère que d'autres oseront franchir le pas.
Il ne faut pas avoir honte de quoi que ce soit. Ça peut arriver à n'importe qui, dans n'importe quelle famille. Et on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, donc il faut avoir le courage d'en parler. Je pense que la personne peut être que fière d'elle. Elle a déjà fait 50% du job, comme on dit.
Reste parfois la barrière financière, puisqu'une telle opération longue et nécessitant du matériel particulier coûte autour de 5000 euros.
On a la possibilité que les gens payent en plusieurs fois. On essaye de trouver des solutions alternatives parce que financièrement, pas tout le monde a la possibilité de pouvoir se sortir la tête de l'eau, clairement.
Il arrive aussi que des aides exceptionnelles soient débloquées via les services sociaux des mairies.
On a noté que le trouble nécessite un suivi médical. Informations et contacts à retrouver sur notre site, ici RCFM. On continue sur le front des incendies où certaines communes misent sur la prévention. En Haute-Corse, c'est le cas notamment à Aulette, à Corbar, mais aussi à Bizing, qui est une réserve communale de sécurité civile. Il a été créée il y a 18 mois après une série de départs de feu dans ce secteur à risque avec 30 hectares de forêt communale. Des habitants bénévoles jouent désormais le rôle de sentinelle du maquis, Roland Frias.
Tout au long de la semaine, ils sont une quinzaine d'habitants à sillonner le territoire pour détecter les départs de feu et le cas échéant, guider les secours. Des bénévoles épaulés par un véhicule 4x4 doté d'une citerne, un drone et un quad. Un dispositif qui rassure la population. Paul Tcherani, deuxième adjoint au maire.
C'est surtout pour nos anciens qui sont dans les maisons, qui ont vraiment peur du feu. C'est hyper important pour eux de savoir qu'il y a un véhicule qui tourne très régulièrement. Et c'est pas des pompiers, mais on est capable quand même d'éteindre un début d'incendie, un petit début.
Des investissements financés en grande partie par l'État, qui voit dans ses réserves communales un maillon essentiel de la prévention. Véronique de Préboudier, préfète de Haute-Corse.
On le sait, 9 départs sur 10 des feux sont des départs qui sont d'origine humaine. Donc l'État est là, il continuera d'être là pour accompagner évidemment tous les élus qui s'engagent dans le cadre de leur réserve communale pour apporter ce soutien essentiel.
Un engagement sur le terrain dont la portée dissuasive est incontestable selon Ignace Giampietri, l'un des bénévoles.
Maintenant qu'ils savent qu'on tourne et tout, ça fait qu'ils se méfient parce qu'ils sont du coin justement. Ils savent qu'il y a des surveillances et du coup on voit les résultats.
Et pour cause, le nombre de départs de feu est passé de 31 avant la création de la réserve communal à seulement 3 l'an dernier.
Et cette année, pour l'heure, aucun départ de feu recensé à Bizing. L'article complet est à lire sur notre site, ici RCFM. Situation sous contrôle aussi pour le feu de Corté. Après quelques reprises ce week-end, l'incendie qui a ravagé plus de 1000 hectares était maîtrisé hier au soir. Et pour honorer tous ceux qui l'ont combattu, la mairie a tenu une cérémonie de remise de médailles de la ville aux partenaires engagés. Après les eaux qui avaient ravagé la vallée de la Restonica en 2023, pour le maire de Corté, Xavier Paul, il est temps de réfléchir à l'avenir de la vallée. Une réunion aura lieu cet automne, explique-t-il au micro de Pierre Pasqualini.
Il y aura une réunion au cours de l'automne, au cours de laquelle nous ferons un certain nombre de propositions à effet de court terme, mais surtout à moyen et long terme. Moi, je l'ai toujours dit, suite notamment aux catastrophes des tempêtes Sierra y Domingos qui ont complètement défiguré la vallée avec des ponts emportés, des routes emportées, rien ne sera jamais plus comme avant. Les éleveurs qui travaillent toujours dans cette vallée, les bergers, les producteurs, routeurs, certains travaillaient dans routés, et maintenant ils ne peuvent y accéder, donc c'est un changement aussi pour eux. On a vu aussi l'incidence pour les bergers du plateau d'Asse, qui ont été obligés de rapatrier leurs troupeaux 2 mois avant l'échéance prévue. Donc c'est un impact qui a lieu à tous les niveaux, et nous devons prendre en compte cet impact pour mieux se préparer à l'avenir, pour affronter, j'espère que ça sera la dernière fois, mais des événements climatiques de ce type.
Et de la situation économique dans le Cortenay après ces incendies, on en parle tout de suite.
RCFM, l'invité de la rédaction.
Il s'agit de Jean-Christophe Barraud, hôtelier dans la Restonica et membre de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Corse. Il répond aux questions de Patrick Vinciguerre.
Jean-Christophe Barraud, bonjour.
Bonjour.
Après les tempêtes de l'automne 2023, les feux, même si aujourd'hui la situation semble stabilisée, comment on tient le coup, on ne baisse pas les bras quand on vit, on travaille dans la vallée de la Restonica, quand, comme vous, on y possède un hôtel?
Comment on ne baisse pas les bras quand on travaille à Corté, tout simplement? Eh bien, parce qu'on a choisi d'y être et que ça fait partie du contrat. C'est comme ça. On a l'incendie en 2000 qui dure une semaine. On a les inondations de Ciaran 2023. Et puis là, on a encore les incendies dans une saison qui se préparait déjà plus ou moins comme étant morose. Eh bien, on n'a plus rien à proposer à nos clients, parce que quand on est dans une commune qui n'a pas de façade maritime et que les deux vallées qui sont les moteurs principaux qui sont impraticables, ben, il faut proposer autre chose. Il faut se réinventer.
Il faut se réinventer, mais vous n'avez jamais cédé au découragement.
Et j'ai pas le choix.
Alors, la saison touristique dans le Cortenay ne s'annonçait déjà pas excellente. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, à mi-parcours, après cet incendie, qu'elle est irrémédiablement fichue?
Alors, fichue, j'en sais rien, on verra, parce que c'est toujours à la fin qu'on paye les musiciens. Elle est irrémédiablement mauvaise, ça, quoi qu'il en soit, à moins d'une embellie inattendue et de grande ampleur en dernière partie de saison, il sera irrémédiablement de mauvaise qualité.
Comment ça s'est traduit pour vous, cet incendie qui est venu s'ajouter à la crise économique mondiale que l'on connaît du fait de la guerre au Moyen-Orient?
Ça s'est traduit par une centaine, et j'exagère pas, une centaine de mails par jour de clients qui, ayant réservé, demandent, et c'est légitime, si c'est praticable, s'ils peuvent venir, s'ils peuvent annuler, parce que n'ayant plus rien à y faire, ils préfèrent rester là où ils sont ou anticiper le séjour à l'étape d'après. Voilà, c'est 80, 90 appels, 100 appels par jour de personnes à qui il faut dire, finalement, la vallée, c'est dans la très haute vallée que ça brûle et pas en bas. La communication a été assez... Elle n'a pas été malheureuse, elle a été tout simplement inexistante.
C'est-à-dire, on aurait dû mieux indiquer quelles étaient les zones où on pouvait aller et celles où on ne pouvait pas aller?
Oui, ou tout au moins essayer de maîtriser une information alarmiste à tout craint et de ne pas décourager le peu de personnes qui s'étaient quand même portées volontaires pour venir nous visiter pendant l'été.
Votre cas n'est pas un cas particulier, j'imagine. Tout le monde souffre dans la vallée de la Restonica?
Tout le monde souffre dans la vallée de la Restonica et à Corté en général, oui, bien sûr. C'est toujours d'ailleurs considéré historiquement comme étant le poumon de la ville. Il serait temps de commencer à en prendre soin.
C'était l'objet de ma question suivante. Il n'y a pas que la Restonica qui est touchée, il y a également Corté, l'activité économique sur Corté et plus généralement dans le Cortenay.
Oui, c'est une l'activité économique. Pour l'instant, en Corse, c'est le moteur principal de notre économie, comme dans toutes les îles pauvres, que ce soit en Méditerranée ou ailleurs, c'est le tourisme. On n'a pas d'industrie, on n'a pas, à part la fonction publique, il n'y a pas une activité économique débordante à Corté. On se retrouve avec une vingtaine de locaux commerciaux qui sont fermés. Il n'y a qu'à faire un tour dans la ville pour voir que l'activité économique, elle n'est pas là. Donc le tourisme, c'est considéré comme étant, et c'est un tort, comme étant le mal nécessaire. Voilà, c'est dommage.
Il n'y a pas que le tourisme qui souffre dans le Cortenay, les autres activités aussi?
Quelles activités ne seraient pas dépendantes du tourisme? Je n'en connais pas.
Il y a les boutiques de vêtements, etc. Effectivement, il faut qu'il y ait du monde.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du monde, il faut qu'il y ait de l'attractivité, il faut qu'il y ait une vie économique, il faut qu'il y ait de la circulation, il faut que l'argent circule. Si l'argent circule, il a de la valeur. S'il est thésaurisé et qu'il ne bouge pas, il n'en a pas. C'est si simple que ça.
La préfecture a mis en place un guichet en ligne pour accompagner les socioprofessionnels en difficulté. La réponse des pouvoirs publics est suffisante? Elle est à la hauteur?
Aujourd'hui, j'ai entendu dire que ça allait se faire. Ce n'est pas encore concrétisé dans les faits.
Qu'est-ce que vous attendez précisément?
Déjà qu'on nous dise ce qui nous sera proposé de faire. Après, les sociopros, pour l'instant, on a été... on va dire consciencieusement écarté de toute discussion. Donc ce dont on a besoin pour l'instant, les pouvoirs publics ne peuvent pas le savoir. puisqu'on a été, on a été conviés à aucune réunion, on nous a pas demandé notre avis. Donc là, peut-être qu'on va nous demander notre avis. Quand on le saura, qu'est-ce qu'on nous demandera? Je sais pas. On répondra présent, comme on l'a toujours fait, lorsqu'on nous appelle et qu'on fait appel à nous.
Jean-Christophe Barrault, vous l'avez répété au début, il y a eu les tempêtes de l'automne 2023, il y a eu les feux en 2000 et puis aujourd'hui. Est-ce qu'un jour la Restonega revivra?
La Restonega revit toujours. Elle reste unique, c'est dans son patronyme. Mais il faudrait vraiment commencer par peut-être en prendre soin, la mettre en valeur et s'en occuper. Je regrette encore qu'il ait fallu attendre les inondations de la tempête Ciarán en 2023 pour qu'on nous annonce avoir réouvert des sentiers de randonnée qui avaient été totalement laissés à l'abandon depuis des dizaines d'années. Il faudrait vraiment prendre conscience que le tourisme n'est pas un mal nécessaire. Ça peut être une activité économique et qui peut être profitable aussi pour les Cortenaises et les Cortenais.
Eh bien, ce sera notre conclusion. Merci Jean-Christophe Barrault d'avoir répondu à mes questions.
Merci.
Jean-Christophe Barrault, l'invité de la rédaction au micro de Patrick Vinciguer. On termine avec le sport et la natation. C'était le retour ce week-end de la Napo Swim Cup dans le golfe d'Ajaccio. Sixième édition qui a réuni près de 180 nageurs et le GFCA Natation en charge de l'organisation a déjà les yeux tournés vers la prochaine échéance. En fin de semaine, son licencié, Sauveur Cristofini, 16 ans, défendra les couleurs de la France au championnat d'Europe Grand Bassin à Paris pour la première fois. Le jeune nageur insulaire se mesurera à l'élite européenne. Européenne senior, point d'étape sur son évolution et les défis qui l'attendent avec Marie Poletti, présidente du club.
Alors cette semaine, Sauveur va être aligné sur le relais français 4x 200 nages libres, sur le 200 nages libres en individuel où il s'est qualifié pour ses championnats d'Europe à l'occasion des championnats de France élite. On rentre dans le très très haut niveau. C'est vrai qu'il survole les catégories juniors, mais la bascule en senior, c'est encore un autre niveau. Alors la chance qu'il a, et le mérite qu'il a, c'est qu'il a pu se confronter à ce niveau senior à l'occasion des championnats d'Europe à Lublin en bassin de 25 mètres où finalement il a quand même reconnu de lui-même qu'il a accusé le coup. Il a dit quand je suis arrivé à la fin, au premier 25 mètres au virage, j'ai entendu la culbute des autres, j'ai crispé. Il va être dans la masse là avec les seniors et il essaiera de tirer son épingle du jeu.
Marie Paulette, la présidente du GFCA Natation au micro de Patrice Roubaud.